VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est exactement 11h en temps universel, 12h à Cotonou. Je suis Irénée Armanon-Bord, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'information sur VOA Afrique. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a encore refusé de nommer à la tête du gouvernement le chef de la majorité parlementaire. Il entretient des relations difficiles avec son ex-premier ministre, Domingo Simoes Pereira. Le point avec Abdourahmane Dia.
Tout en reconnaissant que c'est votre parti qui détient la majorité au Parlement, je vous prie de bien vouloir proposer un autre nom pour occuper ce poste, a déclaré le chef de l'État bissau-guinéen. Pendant plusieurs semaines, pour justifier son refus, il avait avancé que le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas constitué avant d'inviter lundi le PAIGC à lui proposer un nom. Le parti a désigné Domingo Simoes Pereira, une proposition que le président a encore refusée. La crise entre les deux hommes, pourtant issus du même parti, a éclaté en août 2015 avec le limogeage de M. Pereira, qui était alors Premier ministre. Le président Vaz, qui a été exclu du PAIGC, a annoncé que l'élection présidentielle sera organisée le 24 novembre. L'annonce de cette date n'a pas débloqué le contentieux, alors que le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102 à l'Assemblée nationale.
Au Burkina Faso, 17 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque djihadiste à Belhédé, localité située dans la province du Soum, dans le nord du pays, a annoncé hier le ministre de la Défense, Chérif Sy. Au Mali, la mission de l'ONU MINUSMA rapporte depuis Mopti, dans le centre du pays, que deux attaques commises par des éléments peu armés à Yoru et Gangafani, les 17 et 18 juin, ont eu pour conséquence le meurtre de 41 membres de la communauté Dogon, indique une note interne de la mission. Mardi soir, le gouvernement malien avait fait état d'un bilan provisoire officiel de 38 morts et de nombreux blessés. Selon le mémo de l'ONU, ces attaques ont également causé le déplacement de 750 personnes vers la localité voisine de Dinagourou et d'un nombre indéterminé d'habitants vers le Burkina Faso voisin. Au Congo-Brazzaville, les autorités ont rapatrié hier 138 étudiants congolais inscrits à l'université à Cuba. Une partie de ces étudiants avait manifesté à la Havane pour obtenir le paiement de leur bourse. Le point avec Morgane Guériec.
Ces étudiants, dont certains avec leur bébé, sont arrivés hier à Brazzaville. Ils ont été escortés dans l'avion par 5 policiers et 3 agents de sécurité, tous congolais. Le mois dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, avait estimé que les étudiants protestataires avaient franchi la ligne rouge pour avoir violemment réclamé, fin mars, le paiement de leur arriéré de bourse devant l'ambassade du Congo à La Havane. La police cubaine avait dû intervenir. Les autres étudiants sont rapatriés pour avoir connu une succession d'échecs en médecine et dans l'apprentissage de l'espagnol, la langue officielle de Cuba, avait affirmé de son côté Bruno Jean-Richard Itoua, ministre congolais de l'enseignement supérieur. Jusqu'en mars, les étudiants congolais à Cuba accumulaient 27 mois d'arriérés de bourse, selon M. Itoua, qui a affirmé que 12 mois leur ont été versés après les manifestations.
Au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, président du conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute de l'ex-président Omar el-Béchir le 11 avril, a demandé à la coalition d'opposition de revenir à la table de négociation sans poser de conditions. Des conditions qui ont dans leur quasi-totalité été rejetées par les militaires. Alors que les négociations sont au point mort, la résistance civile tente de se réorganiser. De Khartoum, notre correspondante Patricia Huon.
Il est 19h30, les premiers chants retentissent. À Omdurman, dans la banlieue de Khartoum, une quinzaine de personnes se mettent en marche à la lumière des téléphones portables. L'association des professionnels soudanais a appelé à reprendre les manifestations de nuit dans les ruelles. Le mot d'ordre semble se répandre à travers la capitale, de bouche à oreille et par SMS, par l'intermédiaire des comités de quartier qui ont été créés pour assister le mouvement de protestation. Nous continuerons à faire vivre la révolution, ou nous mourrons, ou nous gagnerons nos droits, clament les manifestants au son des tambours. Des hommes, Des femmes et des enfants rejoignent la procession qui passe devant chez eux. Le cortège grossit jusqu'à compter environ 300 personnes. Moins d'une heure plus tard, les gens se dispersent et rentrent chez eux. Tous disent qu'il ne s'agit que d'un échauffement pour avertir le pouvoir que leur détermination n'a pas été brisée malgré la répression. Face à un adversaire lourdement armé, le mouvement de contestation soudanais continue de prôner la résistance pacifique. Patricia Huon, Khartoum, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Iran, les gardiens de la révolution ont annoncé avoir abattu aujourd'hui ce qu'ils ont appelé un drone espion américain qui avait violé l'espace aérien de la République islamique, selon la télévision d'État iranienne. L'incident survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l'Iran et les États-Unis. L'armée américaine a intensifié mercredi les accusations contre l'Iran qu'elle tient responsable de récentes attaques contre des tankers dans le golfe d'Oman, ce que ni Téhéran. Le Sénat américain va voter ce jeudi pour décider s'il bloque ou non les ventes d'armes autorisées par l'administration Trump, mais contestées par de nombreux élus à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, notamment. C'est ce qu'a annoncé le sénateur démocrate Robert Menendez de la Commission du Sénat pour les affaires extérieures. Il s'agit de 22 ventes d'armes distinctes pour un montant de 8,1 milliards de dollars. Pour les opposants à ces ventes, elles ne feront qu'aggraver la guerre déjà dévastatrice au Yémen. Pour les justifier, l'administration Trump a invoqué une situation d'urgence provoquée par l'Iran.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
La campagne électorale pour le scrutin du 30 juin se poursuit au Togo. Les élections locales, après plus de 3 décennies d'interruption, rencontrent un fort engagement de la part de la jeunesse togolaise. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kailongs Lawson.
Le Togo se prépare aux premières élections locales de son histoire depuis 1987. En 32 ans, la gouvernance locale a été reléguée au second rang, affectant le développement effectif à la base. C'est le constat fait par la jeune candidate Lise Diagne, qui affirme avoir des recettes pour sa commune.
Quand je vois par exemple dans ma commune qu'il n'y a pas de structure de santé de ce nom qui puisse accueillir des accidentés rapidement, quand je vois par exemple que des personnes meurent des fois juste par faute des premiers soins, quand on voit dans sa localité des populations qui, à la moindre pluie, ont les pieds dans l'eau parce que peut-être les bassins de rétention, les caniveaux ne sont pas entretenus. Quand on voit plein de défis dans sa localité et quand on a des solutions dans sa tête, mais parce qu'on n'a pas le pouvoir public pour le faire, quand vient cette opportunité, on la saisit.
Pour Ama Sovi Adjanke, candidat dans la commune d'Amoutievé, ces locaux sont une opportunité pour les communautés à la base de prendre leurs responsabilités.
Ces élections locales sont pour nous une occasion de faire bouger les choses. Mais devons-nous attendre l'alternance pour voir nos communautés évoluer? Je ne pense pas. C'est pour cela que nous avons décidé de participer à ces élections en vue de faire bouger les lignes.
Ils sont nombreux, ces jeunes Togolais dont l'âge est compris entre 25 et 40 ans, à s'être engagés pour ces élections. De jeunes candidats qui n'ont jamais vécu l'expérience d'une élection locale, mais qui se projettent. Le manque d'alternance au sein des formations politiques explique entre autres cet engouement de la jeunesse, analyse Urobosi Chakondo du Centre d'observation et de promotion de l'état de droit, COPED.
Au niveau de la classe politique togolaise, de l'opposition comme de la majorité, il n'y a pas eu l'alternance qui favorise l'implication des jeunes dans la vie des partis politiques, donc dans la gestion de la cité. Donc ces jeunes voudraient quand même, à un moment donné, essayer de jouer un rôle important et puis faire en sorte qu'ils soient une jeunesse responsable de leur devenir.
Évidemment, c'est cette quête de rajeunir la classe politique togolaise qui sous-tend l'engagement du mouvement Bâtir, dont Delali Ahianou est candidate dans la commune d'Agouet 3.
Ma candidature pour cette élection locale ne serait que preuve de ma bonne foi pour le développement de ma commune. Nous avons une vision et notre vision, c'est de travailler à l'union et surtout avec les jeunes.
Le scrutin est prévu pour le 30 juin prochain. Kailasan, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Retrouvez Francis, Henri Francisque pour le prochain rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.